perme principale qui émerge du niveau de la mer. Et ces racines, et le tableau des racines de la mer, nous avons expliqué déjà, je crois, la dernière fois, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir aujourd'hui. En fait, il faut, grâce, que je vais, on en a été resté là la dernière fois, grâce à l'anamnèse, grâce à la mystique de l'anamnèse, et notamment, je vais expliquer l'anamnèse du rosaire, on peut redescendre à tous les analogués de ces racines de la mer dans notre vie, et en arriver, justement, à notre lien avec la paternité divine, qui est le visage paternel et maternel, dans notre origine. Voilà. Mais on va y revenir sans doute. Hein. Donc, ce tableau-là, c'est le tableau qui compare les deux manières de se sentir coupable. On se sent pécheur, se sentir pécheur ou se savoir pécheur. Ça peut être très très mauvais, ça peut être excellent. Donc il faut savoir la différence entre la vraie vision de culpabilité et la fausse vision de culpabilité qu'on appelle le sentiment de culpabilité. Et il ne faut pas faire comme les psychanalystes ou les psychologues ou les pédagogues du monde contemporain. Il faut supprimer tout ce qui peut ressembler au sentiment de culpabilité. Il ne faut surtout pas culpabiliser. Et là, ceci est vrai. Mais ils oublient qu'il y a la conscience de culpabilité et c'est ce que nous voulons regarder très attentivement aujourd'hui. Donc être lucide sur merci de l'air. Bref, je pense que ce tableau des racines de la mer est suffisamment parlant, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas besoin de le commenter. Hein, il est très parlant. À chaque fois, vous avez une agressivité, une convoitise, une tristesse, une amertume. Vous dites, voilà, j'ai rencontré il y a un mois Iphigénie, c'est ça? Elle, je sais pas, elle me déçoit profondément. Ça. Elle me déçoit profondément, ça me met dans l'amertume. Eh bien, c'est pas de la faute d'Iphigénie. C'est de la faute du fait que j'ai réagi très mal un jour, à un moment donné, j'étais encore dans le sein maternel, ou après la naissance, j'ai eu une très mauvaise réaction vis-à-vis de ma mère. C'était une réaction coupable, mais non responsable. Et il faut demander pardon, parce que je suis coupable, même si je n'étais pas responsable. Vous voyez ? Il faut comprendre ce que ça veut dire, ce que disait Georgina du poids. Responsable, mais pas coupable. Ça veut dire qu'en tant que ministre, elle estimait être au niveau de l'enfant avant la naissance. Coupable, non. Responsable, oui. Ça montre que c'est une spiritualité très très régressive. Ça. Et c'est très intéressant à regarder. Et donc, comprendre que ce n'est pas de la faute d'Iphigénie du tout. C'est pas elle qui le déçoit profondément. C'est pas vrai. Et comprendre cela, c'est très important. Et voir à quel point c'est exact ça, vous voyez. Et il faut le trouver, il faut le voir clairement. Et une fois qu'on l'a trouvé, il faut l'offrir, il faut pardonner à sa mère, se pardonner à soi-même, et il faut recevoir le pardon. Et on s'apercevra que tout de suite, à ce moment-là, si je remonte à partir de là, avec l'anamnèse du rosaire, jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que l'amertume saute sur ce type de relation. Parce que ce type d'amertume n'a cessé de se reproduire tout au long de ma vie. Et ce type d'amertume a cessé de se reproduire au long des âges de ma vie. Donc c'est donc pas de la faute d'Iphigénie, c'est pas de la faute de David, c'est pas de la faute de Bruno, c'est pas de la faute de... Non, non. C'est pas vraiment de la faute de la gifle que j'ai reçue ou du coup de pied que j'ai reçu dans mes fesses quand j'avais 3 ans, par mon père, violence terrible, ça. Non, non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est encore avant. C'est que j'en ai voulu à Dieu. savoir ça, c'est que je suis conçu avec une relation très viscérale à Dieu dès le premier instant de ma conception. J'ai une relation qui n'est plus viscérale, vous sentez que c'est pas juste, puisqu'il n'y a pas de viscère dans la première cellule. Mais j'ai une relation très physique, biologique. C'est un exact avec Dieu. Et lorsque il m'arrive, après le 40e jour, des événements de non-amour, des vibrations, parce que les parents s'aperçoivent qu'ils ont un enfant, et tout de suite ils sont perturbés, ils disent ma flûte, aïe aïe aïe, quelle catastrophe! Horrible, ils mettent un mois avant de l'accepter, ça, et vous ressentez toutes ces vibrations de désir, de non-existence, de ce que. Or, tout cela, tout ce que vous recevez comme parole, vous avez l'habitude que c'est Dieu qui parle à travers ce qui vous est transmis, neurotransmetteur, voyez, et c'est pour ça qu'on a dû regarder l'ARN, ça, pour montrer que les ARN sont des transmetteurs biologiques. Et ces vibrations sont reçues dans le champ bioélectrique. Dans le réceptacle, ce sont ces ARN, T, n'est-ce pas? Et j'ai l'habitude d'être, pas littéralement, mais biologiquement, vitalement, donc, en union avec Dieu, et d'un seul coup, j'ai un message paternel et maternel de mon amour, et du coup, je peux, face à ça, répondre par un choix de vie ou un choix de rejet de Dieu. Alors, par rapport à ça, je suis coupable. Et enfin, profondément, c'est toute ma relation à Dieu qui va, toutes les réactions face aux blessures, si vous voulez, profondes, qui vont se répercuter par écho jusqu'à aujourd'hui. C'est la chose très belle de l'amertume. Voir si l'amertume est là, c'est parce que je ne suis plus biologiquement uni à Dieu. Je ne suis plus uni à Dieu dans un amour qui va jusqu'à le point de vue biologique, jusque dans le point de vue de mon mental, des cellules. Et bien, je préférerais dire, plutôt que Sri Aurobindo qui dit mental des cellules, je préfère dire le cordial des cellules. C'est plus joli, ça, hein? Cordialement, le cordial des cellules, ça me plaît, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, retenons toujours ce petit schéma-là en nous pour comprendre que lorsque nous nous offrons à Dieu et que nous offrons nos amertumes, notre tristesse, nos sentiments d'échec, etc., ou même nos péchés réels, hein, bien concrets, il faut aller tout de suite jusqu'à la racine de ces indélicatesses que nous avons. Les mensonges que nous faisons tout le temps. Et cette racine, c'est que je me suis, au fond, détaché de Dieu. J'en ai voulu à Dieu. C'est instinctif, n'est-ce pas? Mais la liberté n'a pas joué, si vous voulez, puisque c'est pour ça que c'est pas responsable. Mais c'est quand même coupable, parce qu'il y a quand même à partir du 45-50e jour, il commence à y avoir une certaine liberté quand même. Bon, on va y revenir de toute façon.
Est-ce que ça rapporte le non-ouvert d'un homme
qui est le plus important? Écoutez, ce que je vous ai dit, ce que la donnée qui revient la dernière fois, c'était une confidence, vous comprenez, hein? C'était une confidence, c'est-à-dire que je n'en fais pas une doctrine. Tout. Moi je faisais comme ça. Bon, d'accord. Donc personnellement je faisais comme ça. Donc que ça me convenait, moi personnellement. Je ne sais pas si c'est bien. Vous comprenez? Moi je pense que l'analyse du rosaire, c'est quelque chose de très beau. Et, en même temps, je sens qu'il y a quelque chose qui peut être de mieux. On scrute Joseph, en ce moment, je suis sûr qu'il y a quelque chose de mieux. Mais, pour l'instant, l'analyse du rosaire, bon, je
C'est comme ça. Alors, d'abord, c'est très long. La même... c'est très très long. C'est par Marie, quoi. C'est avec Marie. C'est l'Immaculée Conception. C'est Marie que je prends à pleine main. Et l'anamnèse du rosaire, vous comprenez bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner comme une doctrine spirituelle pour cela à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord que, préalablement, la personne ait la foi quand même. Vous comprenez ? Et qu'elle soit capable, tout le monde n'en est pas capable, de faire une anamnèse. Et faire cet exercice spirituel de l'anamnèse, déjà, c'est assez vertical. Faire une anamnèse du rosaire par rosaire, c'est encore plus compliqué. Donc si quelqu'un est incapable de faire une anamnèse brute, qu'est-ce que c'est qu'une anamnèse ? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une anamnèse ? Vous voyez, faites les exercices de Saint-Ignace, la première semaine des exercices de Saint-Ignace consiste à faire l'anamnèse. Ah, moi, les exercices de Saint-Ignace, je n'y arrive pas. Ah, bon, ben, c'est pas tout le monde qui peut peut-être faire l'anamnèse. C'est, au fond, certains disent c'est faire un examen de conscience général. L'examen de conscience de toute votre vie. C'est ça, une anamnèse. Mais dire ça aujourd'hui, ça ne va pas. Parce que c'est. Peut-être il y a un siècle, ou du temps de Saint-Ignace, dire ça, ça suffisait. Parce que les gens avaient quand même un très grand bon sens, et ils n'étaient pas aussi perturbés que nous. Ils avaient une très grande intelligence, très grande perspicacité. Tandis que nous, on est devenus très très grossiers, hein, dans le monde d'aujourd'hui, hélas. Bon. L'imaginaire prend une place beaucoup trop importante. Il y a une espèce de. D'effervescence de l'imaginaire à cause de l'image tout le temps. L'électronique joue un très bon rôle. Hein. Donc le bioélectrique de notre information de conscience est permanente. Alors, à cause de ça, c'est devenu très difficile. Alors, comment est-ce qu'on fait une anamnèse ? Il faut. On commence à faire une anamnèse en regardant, par exemple, en regardant depuis le matin, si vous êtes le soir. Faites un exercice d'une demi-heure et vous prenez depuis votre réveil 10 minutes après 10 minutes jusqu'au soir. À partir de quel moment vous avez dérapé ? Ton amour, chaque matin, me réveille. Au savoir, c'est une promesse de Dieu et il tient ses promesses. Chaque matin, il y a un amour de Dieu, une fraîcheur, une unité avec lui. C'est pour ça qu'on demande aux enfants de faire leur prière du matin. C'est assez simple d'ailleurs. Et même si on ne s'en rend pas compte, quand on se réveille le matin, même si on n'en a pas conscience, il y a toujours une petite prière au Seigneur. Toujours. Si vous regardez attentivement sur vous-même ce qui se passe quand vous vous réveillez, il y a toujours un moment qui est une prière, ne serait pas implicite. Même si c'est pas explicite, même si vous dites, tiens, je suis en train de faire... Non. Bien regarder, il y a un sentiment d'unité à Dieu. Ton amour, chaque matin, me réveille. À partir de quel moment il y a eu le premier dérapage ? C'est toujours très délicat. Tous les soirs, on doit faire son examen de conscience. Je signale, c'est normalement spiritualité chrétienne. Hein. Tous les soirs, on doit faire l'examen de conscience. Et l'examen de conscience consiste à voir... À partir de quel moment j'ai dérapé ? À partir de quel moment j'ai quitté l'union à Dieu, puis après, à partir de quel moment j'ai fait une première transgression ? À partir de quel moment j'ai fait une première faute ? À partir de quel moment j'ai fait le premier péché ? À partir de quel moment je suis rentré dans l'inimitié ? Évidemment, lorsque j'étais jusqu'au péché, si c'est au bout de la première heure, le démon vous laisse tranquille tout le reste de la journée, et à gagner, vous êtes séparés. Jusqu'au soir. C'est pas la peine de regarder ce qui s'est passé entre ce péché et le reste de la journée. Il faut repérer ce péché. Le reste, le démon vous laisse tranquille. Une fois que le démon vous a séparé de cette union initiale du réveil, il y a une grâce de résurrection du Christ. Depuis la résurrection du Christ, c'est encore plus fort. Chaque matin quand on se réveille. Vous savez, quand on dit matin en liturgie, ça, et dans l'écriture, le matin de la résurrection. Chaque matin, il y a quelque chose de la résurrection qui nous est donné. Et le démon vous laissera tranquille à partir du moment où vous avez dérapé. Souvent, c'est souvent une demi-heure avant la vie. Très souvent. Quelquefois, vous naviguez au radar jusqu'à midi. Ça peut arriver que ce soit vers 1h l'après-midi qu'il y a la première faute. Qui vous sépare tout à fait de Dieu, qui vous met dans l'orgueil. C'est à nous de repérer ça. Si on n'est pas capable de faire l'examen de conscience, encore moins de faire une anamnèse. Si on n'est pas capable de faire l'anamnèse d'une journée, comment voulez-vous faire l'anamnèse d'une vie tout entière? C'est pas possible. Si vous n'êtes pas capable de discerner le moment où vous êtes sorti du livre à Dieu, ça prouve que votre perspicacité, votre radar ne marche plus, ne fonctionne pas. Vous pouvez le mettre à la casse. Donc vous voyez, c'est pour ça que l'analyse du rosaire, c'est délicat de dire « faites un rosaire, prenez un... » C'est délicat. Moi, je dis, par la grâce de Dieu, moi, j'ai été entraîné par des gens qui avaient une patience inouïe, m'ont suivi pour faire les exercices de Saint-Ignace, tout ça, m'ont appris à faire l'examen de conscience, et tout. Alors j'ai du pot, si vous voulez, ça ne me pose pas vraiment de problème. Premièrement, apprendre à faire l'examen de conscience du soir, de la manière dont je vous dis. Et c'est très simple d'ailleurs de faire ça. Vous savez, on en avait parlé pour la confession. Hein? Confesser ce qu'on est. Le soir, je m'offre à nouveau à Jésus. Je demande pardon. Mais avant, je repère où je l'ai quitté pour pouvoir le rejoindre. Je lui demande pardon. Et lui, je lui demande surtout l'absolution, mystiquement, chaque soir. Et puis, il donne l'absolution. Il faut vivre de la communion spirituelle avec l'Eucharistie, il faut vivre de l'absolution mystique, évidemment, tous les soirs. C'est grâce à ça qu'après, quand je vais me confesser au prêtre dans le sacrement, j'apporte quand même une matière au sacrement. Vous savez que si vous n'apportez pas une matière au sacrement, il n'y a pas de sacrement. C'est pour ça que confesser, ça veut dire faire son examen de conscience tous les soirs. Sinon, votre confession, c'est bien, vous êtes absous, mais
si,
la catholicité...
Si on a dérapé tôt le matin, mais quand on s'en aperçoit tout de suite, et qu'on fait les actes d'adoration, et de fréquence...
Oui.
Quand on regrette.
Ah oui, mais ça c'est...
À ce moment-là, on retrouve la grâce,
quand même. J'espère, oui, tout à fait, j'espère. Oui, sans doute.
Non, parce que vous dites, après toute la journée, c'est...
Non, il faut savoir que quand on mène une vie courante, c'est comme ça que ça se passe ordinairement. Bah, bien sûr, comme vous le dites, je peux très bien me reprendre l'après-midi, ne serait-ce que parce que quelqu'un m'a rencontré...
Tout de suite, tout à fait.
Alors après, vous reprenez de ce moment où vous avez prié, et puis vous attendez, vous faites dans votre examen de conscience, vous reprenez le dérapage suivant. C'est d'accord, si vous voulez. Oui. Mais c'est moins important. Le plus important, c'est l'initial. Bon. Et après, je crois que c'est facile de passer à la deuxième étape. C'est ça les exercices de Saint-Ignace. Pendant trois jours, vous vous faire par une certaine voie d'accès, par une autre méthode, par une troisième méthode, par une quatrième méthode, l'examen de la journée. Et vous devez faire une demi-heure par méthode. Et puis après, les trois jours suivants, il vous fait faire des exercices. C'est génial, Saint-Ignace. Il veut faire des exercices pour faire un examen de conscience sur les péchés de, par exemple, sur un mois, par exemple. Puis après, pendant un jour, il vous fait faire, pardon, pendant même plus que ça, ça dépend justement si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, il vous fait faire dans les exercices spirituels, vous avez déjà entendu parler des exercices spirituels. Quand on dit des exercices spirituels, c'est ça. Il vous fait faire l'examen, ça c'est ce qu'on appelle, ce que je viens de vous dire là, c'est l'examen particulier, Et il vous apprend à faire l'examen général. Hein. L'examen général, c'est de redescendre jusqu'à l'origine de votre vie et de remonter avec le Rédempteur. Et après, vous vous confessez. Et le Père spirituel qui vous donne les exercices de Saint Ignace, il est là pour vérifier que vous avez été vraiment jusqu'au fond de la damnation. Sinon, vous ne faites pas les exercices suivants. Ça dure 33 jours, les exercices en principe. Sinon, vous ne pouvez pas faire les exercices suivants. Les exercices de la deuxième semaine. Mais quelquefois, il y a plein de gens qui font les 33 jours d'exercice et qui n'entament les exercices de la deuxième semaine qu'au bout de 20 jours. Autrement dit, c'est pas automatique. Vous voyez bien ? Alors l'anamnèse du rosaire, encore mieux. Il faut être capable, premièrement, de faire une anamnèse. Deuxièmement, il faut par ailleurs être capable de vivre du rosaire de manière contemplative. Et c'est pas tout le monde qui est capable de vivre du rosaire de manière contemplative. Vivre du rosaire de manière contemplative, je suppose que... Et c'est pour ça que moi je dirais, vivre de Marie à travers les 15 mystères du rosaire de manière contemplative, c'est se tremper dans les eaux de la piscine de Lourdes, je suis l'Immaculée Conception. Plonger entièrement dans les eaux de la piscine de Lourdes, manger l'herbe, ben, et boire à la source boueuse. Voyez. Ça, c'est quelque chose de très fort, de dire le rosaire. Pendant 15 jours, la Vierge demande, faites-moi la grâce de venir ici pendant 15 jours pour me voir. Les 15 mystères du rosaire, c'est... Faites-moi la grâce. C'est... On est invité par l'Immaculée Conception à venir voir l'Immaculée Conception en elle-même. C'est ça le rosaire. Le rosaire. Alors, on prend un chapelet dans les mains. Il le faut. Si vous êtes persécuté comme ça, dans le camp de concentration, arrache le chapelet, à ce moment-là, prenez un doigt et servez-vous du sens du toucher. Il faut servir du sens du toucher. Hein? Il le faut, parce que notre corps... Alors le sens du toucher, il est récapitulateur de tous les sens externes, c'est à cause de ça. Parce que notre corps... Sans notre corps, on ne peut pas vivre de manière contemplative du mystère du rosaire. Autrement dit, il faut que notre corps, à travers nos sens externes, soit mobilisé. Et pour que notre corps ne soit pas mobilisé sur les choses extérieures, mais sur le mystère de l'Immaculée Conception, j'occupe mon corps avec ça. Mon imagination est mobilisée. J'imagine, c'est également des exercices de Saint-Ignace, vous savez, c'est la deuxième semaine, c'est ça qu'on fait dans la deuxième semaine des exercices. On apprend à mobiliser l'imaginaire et la mémoire. Parce que ce sont des puissances de perturbation de la vie intérieure. Ce sont des puissances d'imagination, d'anarchie. Et donc il faut les mobiliser. Donc, pour mobiliser l'imaginaire et que ça ne vienne pas me perturber à cause des fantasmes, etc., des distractions, etc., j'utilise l'imaginaire et avant de commencer le premier mystère, avant de commencer le cinquième mystère, et pareil au douzième, et pareil au quinzième, il faut que je prenne 15 secondes pour localiser l'endroit, imaginer le lieu, la petite maison de Nazareth. Entendre quelque part les voix du coq, de l'âne qui hurle, du chien qui aboie, de l'oiseau qui passe. Entendre le silence de la prière de l'Immaculée, de la petite Marie qui est là. Entendre la discrétion délicate, extrême de Joseph qui essaie de ne pas faire trop de bruit pour ne pas déranger.
sentir cette délicatesse du Père, voir les meubles très sobres, voir la lumière tamisée, voir ça. Je me mets dans le contexte, je vis dans ce contexte, et il est évident que si on fait ça, Maria Valtorta, c'est la bibine à côté de ce qu'on vit. Tu peux mettre Maria Valtorta à la poubelle si tu fais ça. C'est génial quand tu fais ça. C'est rien du tout, Maria Valtorta. Ce que tu vis quand tu es dans le rosaire, c'est évidemment beaucoup plus fort. Le temps qu'on perd, quand on perd le rosaire, on ne perd pas son temps. Mais après, et on garde ça. Vous voyez, l'imagination immobilise. C'est pas spirituel, c'est l'imagination. Vous savez très bien que l'imagination, tout le monde a de l'imagination. Mussolini a de l'imagination. Même Mitterrand, au moment du discours de suicide de Gabriel Leroy, j'imagine. J'imagine. Que Mitterrand imagine, c'est très bien, c'est pas spirituel du tout. Bon, il faut que la mémoire soit mobilisée. La mémoire, c'est le rythme. Vous voyez, la mémoire, c'est je me rappelle ce qui est avant, ce qui est après. C'est un rythme. Il y a quelque chose dans notre vie sensitive qui est en rythme avec les ondes alpha, 10 pulsations par seconde, les ondes bêta, 25 pulsations par seconde dans le névrate, les rythmes respiratoires, le rythme cardiaque, qui est encore un autre rythme, les rythmes biologiques, les rythmes, la mémoire, l'avant, l'après, c'est dans le temps. Il y a une espèce de métronome extraordinaire en moi, la mémoire, ce qui vient d'avant, ce qui va après, l'instant présent. Il y a un rythme. Et la mémoire est mobilisée parce que j'apprends, je connais par cœur qui après, après je c'est vous, après vous c'est salut, après salut c'est Marie. Après Marie c'est pleine, et après pleine c'est de grâce, etc. Bon, bref, je sais par cœur, je connais par cœur mon Notre Père, mon Je vous salue Marie, et je dis Notre Père, Je vous salue Marie, hein, quand la Mama Rosa, que certains connaissent, ou les Italiens, sans parler de la Mama Rosa, bon, disaient le chapelet, ça paye. Aïe Maria! Comment est-ce qu'elle disait avec le père Pelacano, c'est ça? Elle va voir le père Pelacano un jour. Pelacani. Alors, elle disait le chapelet. Alors, il paraît qu'il était très choqué de la manière dont elle disait l'Ave Maria. Parce qu'elle disait. Aïe Maria! Je disais, non, pas Aïe Maria! Pas Aïe Maria! Je dis Ave Maria! Ah bon mon père, ah bon, ah bon mon père, on va Ave Maria, bon bon. Bon, allez, on redit le chapelet, voilà. Alors, allons-y. Il a dit, Aïe Maria, Aïe Maria, Aïe Maria, Aïe Maria. C'est la mémoire, c'est par cœur. C'est très bien, Aïe Maria. Oui, Aïe Maria, oui, parce que, oui, c'est vrai, dès que je suis, je m'imagine le truc, et puis, d'un seul coup, dans la tranquillité de l'union à Dieu, aïe, 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 un ange, tu vois. C'est perturbation. Aïe, Maria, grâce à la de c'est l'ange Gabriel qui apporte le Rédempteur. Aïe, tu vois, c'est Aïe, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Bon, peu importe, c'est la mémoire qui est mobilisée. La mémoire. Il ne s'agit pas de dire notre Père qui est aux cieux, imaginez les cieux. À chaque fois, ouais, ça ne va pas. C'est pas du tout ça, le rosaire. Si vous dites le Notre Père dans l'horizon, faites-le comme ça, très bien. Mais ce n'est pas le but du rosaire, de la récitation de Notre Père, Je salue Marie, de penser les paroles que vous prononcez. Le but, c'est de mobiliser la mémoire. C'est pas pareil. Du moins, si vous le pensez, tant mieux. Si vous le pensez, tant mieux, je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas le principe, c'est pas ce qui compte, d'accord? La mémoire est mobilisée. Ce n'est pas spirituel, la mémoire. Le chien, vous lui avez donné un coup de pied aux fesses, hein, 2 ans après, il s'en rappelle. Bon. Et si c'est un âne, c'est encore mieux. Un âne, 5 ans après, il s'en rappelle. Hein. Et il vous fait un coup de ruade dans les fesses, mon pote. Contre un mur, quand il voit que vous êtes coincé contre un mur, vous ne pouvez pas vous... Vous ne pouvez pas vous... Là, parce qu'il y a 5 ans, quand il a fait une... Un cheval, il peut oublier au bout de 2 ans. Mais un âne, non.
Un chameau ne peut pas. Un chameau ne peut pas.
Donc, la mémoire est mobilisée, vous comprenez? Et donc, je dis, mais je veux saluer Marie, tout simplement. Il ne faut pas se culpabiliser en disant, mais je dis, mais je veux Marie, mais je ne pense pas à ce que je dis. Et alors, tant mieux, excellent, parfait. Très bien, vous êtes sur la bonne voie. Il faut que, pour le sens commun, la cogitative, je passe. Encore que ce serait important, mais comme vous, comme c'est difficile aujourd'hui de situer pour les gens, on a une très faible conscience du sens commun, on arrive très mal à situer l'exercice également de la cogitative. Donc, cogitative, c'est ce qui correspond à peu près à l'intuition, vous savez, côté un peu médium qui est en nous, enfin, si vous voulez, hein, l'estimative. Il faut sentir, avec la cogitative, l'ambiance. L'importance. Vous voyez ? Le côté un peu préternaturel du mystère. C'est la petite maison. C'est, vous êtes en accord avec l'Immaculée, vous comprenez ? Elle pressent que dans un instant, il y aura quelque chose. Elle est disponible. Mais en même temps, son estimative est. Hein, avant un orage, les chiens aboient. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. L'estimatif, c'est animal. La causative, c'est animal. Je pense que pour mobiliser l'estimative, la causative, c'est là que on essaye de comprendre qu'il y a un fruit qui correspond à ce mystère. Donc, mystère de l'Annonciation, je sens que le fruit, c'est disponibilité. Pauvreté, accueil, la volonté. On sent ça. Il y a un lien. C'est encore animal, si vous voulez. C'est animal, mais c'est humain aussi, parce que vous voyez, c'est un lien quand même. Hein. Il faut sentir ce lien. Bon. Ensuite, les puissances de la vie spirituelle, humaine, vont être mobilisées aussi. Donc, le cœur va être mobilisé. Le cœur, c'est que vous aimez et vous êtes appelé à la communion des personnes et à faire l'unité des deux en une seule chair. Mystiquement. Cordialement. Il s'agit de l'Immaculée Conception. Donc vous aimez Marie. Et donc vous faites une seule chair avec elle. Ce qu'elle vit, vous le vivez. Et ce que vous vivez en ce moment, vous le vivez avec elle. En une seule. Et pendant, à ce moment-là, vous attaquez. Vous attaquez notre Père, dit « Je vous salue, Marie ». Vous voyez, il faut ces 15 secondes d'arrêt avant. Et une fois que le cœur, la mémoire, l'imagination, la cogitative et le corps sont mobilisés, vous pouvez, avec elle, contempler le mystère. Et c'est l'intelligence, à ce moment-là, contemplative qui est mobilisée. C'est la contemplation du mystère de la très sainte Trinité. La perception de la présence différente du Père dans ce mystère, du Verbe dans ce mystère, de l'Esprit Saint dans ce mystère. À quoi je suis attentif pendant la récitation du rosaire. Et je peux être entièrement mobilisé parce que mon cœur est fixé dans l'unité avec la Marie, ma mémoire est mobilisée, je ne vais pas avoir des angoisses qui vont venir par rapport à, tiens, et le facteur qui va sonner, et vous n'êtes pas perturbé par des fantasmes parce que l'imagination est mobilisée, vous n'êtes pas perturbé par des pensées parce que votre cogitative et votre raison est immobilisée. Voilà. L'âme du rosaire, c'est de contempler ce que Marie a contemplé de la très sainte Trinité à travers ce mystère-là. Il faut lui demander de percevoir, de vivre ce qu'elle a vécu là, spirituellement, de manière contemplative. Un rosaire sans la contemplation des mystères, c'est comme un corps sans âme. La Vierge dit, Carabondal, c'est un cadavre.
C'est évident que si vous passez dans le premier mystère de cette manière-là, même si ça n'a duré qu'un dixième de seconde, contemplation du mystère, c'est bon, vous êtes passé sur le premier échelon d'essai de Jacob, vous pouvez passer sur le second échelon, jusqu'au quinzième. Quand vous aurez vécu ces 15 mystères et que vous arrivez au sommet du 15e mystère, je vous affirme que si vous restez 10 minutes, une demi-heure, 5 minutes, ça ne fait rien, dans le silence, je vous affirme que vous faites l'expérience sans aucun mélange du don de sagesse. Si vous voulez savoir comment on vit du don de sagesse, c'est 5 minutes qui après, c'est monté. L'esprit, il n'y a plus que l'Esprit Saint, sans aucun mélange. Quelqu'un dit, vous avez fait l'expérience des 7 dons du Saint-Esprit, faites le rosaire. Ces 5 minutes-là, Esprit de sagesse. Donc, un, il faut être capable de faire une anamnèse. Deux, il faut être capable de savoir dire un rosaire. Alors, si vous êtes capable des deux, peut-être vous pouvez dire la nanette du rosaire pour votre copain, d'accord? Alors, mais avant d'essayer de le dire pour votre copain, dites-le pour vous. Dites-le pour vous, comprenez? Hein? Si dans votre vie, vous voyez que le plus gros poids de votre vie, c'est quand... Vous savez, à cause de l'héritage, votre père est mort, il a favorisé votre frère, votre place, et du coup vous avez une haine vis-à-vis de votre père, vis-à-vis de votre frère, ça dirait, ça c'est un des racines avant vous, c'est pas, par exemple, ou autre chose. Le gros poids de votre vie, vous pouvez, c'est bien, de prendre ce poids-là, de l'engloutir dans le cœur immaculé de Marie et de reprendre avec elle l'ascension dans les 15 mystères. Au bout de ces 15 mystères, vous verrez que vous expérimenterez l'esprit de piété. Miséricordieux. Miséricorde. Oh, miséricordieux. Et, voyez, hein, c'est vrai, c'est beau ça. Et l'anamnèse du rosaire, c'est de prendre tout ce que vous avez vécu. Par exemple, les 10 premières années de votre vie. Hein? Vous prenez par exemple de la conception jusqu'à la naissance. Et puis vous poussez comme ça pendant la dizaine, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et vous vivez dans ce mystère-là. Puis vous revenez à votre conception, puis vous poussez jusqu'à l'âge de 10 ans, pendant le mystère de la visitation, dans la contemplation mariale du mystère, de la Sainte Trinité, qui communique quelque chose de l'allégresse de l'Esprit Saint dans la vie communautaire. L'allégresse de l'Esprit Saint dans la Sainte Trinité communiquée chez Elisabeth. Très bien. Il faut être pareil pour les 15 mystères. Là, ça y est, vous commencez la vie de la nanèse. Vous voulez pour vous d'abord. Hein? Et une fois que vous l'avez fait pour vous sur toute la circulation de votre vie, vous pouvez effectivement prendre quelqu'un qui agonise et reprendre toute sa vie avec le rosaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une des plus belles choses qu'on puisse faire. Et moi, j'ai expérimenté plusieurs fois que la personne, dans un... elle reçoit vraiment une grâce sensible de transfiguration. Ça se voit. C'est vrai. C'est impressionnant. Voilà. Mais j'en ferai pas une doctrine, vous comprenez? C'est une confidence. C'est pour ça que... je suis comme ça. Puis, quand le Seigneur me donne la grâce, vous comprenez que là, c'est pas une technique. Hein, il faut vraiment que mon Dieu vous fasse la grâce. Là, hein, je veux dire... Hein? Mais je crois que si on demande à Jésus cette grâce, il nous la donne quand même. Il faut demander à Marie, je crois qu'il nous la donne, Lisa. Hein? Il nous la donne, moi je crois qu'il nous la donne.
Bah écoutez, essayez, c'est beau, c'est très beau de faire ça, c'est très grand, c'est vrai. Voilà, donc voilà pour la dame neige du rosaire, oui. Alors il faut redescendre dans vos racines amères de ce départ et vous remonter. Hein? Bon, nous en étions... Oui, je vous ai amené le texte que je vous ai peut-être déjà lu, de Thérèse d'Avila, qui décrit comment elle voit une âme en état d'union initiale, d'innocence, avec Dieu. Ce qui s'est passé pour chacun de nous dans notre état biologique de conscience, si je puis dire, dans notre première cellule. Ça, c'est magnifique de regarder ça, parce que nous avons tous vécu ça. Et cet écho-là est éternel en nous, inindéracinable. C'est un écho continuel en nous. Cet écho de cette expérience initiale. C'est beau de voir comme Thérèse d'Avila voit ça par grâce de Dieu. Tandis que Thérèse d'Avila se sentait pressée de ce désir de voir la beauté d'une âme en union à Dieu. Dans l'innocence, elle reçut l'ordre d'écrire sur l'oraison. C'est extraordinaire. Elle a reçu l'ordre d'écrire sur l'oraison, les demeures et tous les livres sur l'oraison. Au moment où elle a le désir de voir une âme dans l'union initiale avec Dieu, dans l'innocence, dans la grâce. C'est génial, hein. C'est pas mal, hein. J'espère vous sentez la cogitative. Faites des exercices de cogitative. La veille de la fête de la Sainte Trinité, tandis qu'elle était à se demander comment elle pourrait écrire, quelles idées elle pourrait placer pour fonder ce traité sur l'oraison, Dieu, qui dispose de tout avec sagesse, exauça son désir initial de voir une âme dans cet état d'intention. Pour lui fournir le plan de l'ouvrage, il lui montra un magnifique globe de cristal en forme de château ayant sept demeures. Dans la septième demeure, placé au centre, se trouvait le roi de gloire, brillant d'un éclat merveilleux. Dans toutes ces demeures, jusqu'à l'enceinte, se trouvaient illuminées et embellies. Plus elles étaient proches du centre, plus elles baignaient dans cette lumière de gloire. Tandis que la Sainte Mère s'émerveillait de cette beauté résidant au centre de l'âme. Lorsqu'elle est dans l'état d'innocence de grâce, elle voit d'un seul coup ce qui se passe. Avec l'héritage du péché originel. Donc cet état d'innocence toute pure, au moment où Dieu en est créé, le Verbe qui illumine tout homme au moment où il vient dans ce monde. Ça donne ça. Dieu crée mon âme dans une petite cellule, et dans cet instant, le Verbe de sang de tout illumine tout homme au moment où il vient dans ce monde. Prologue de l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Vous savez que quand il est installé, il n'en partira plus. Mais en même temps, on est biologiquement attaché à notre Père et notre Mère, et le sang de notre Père circule. Et hop, il y a l'héritage du péché originel qui se transmet par le corps. Ne jamais oublier ça. Un héritage moral, c'est pas un héritage, c'est par le corps que se transmet l'héritage du péché originel. Il y a de quoi, hein. Il faudra expliquer un peu. Donc, d'un seul coup, héritage, le péché vient. Et on est tous bâtis sur cette extraordinaire gloire. C'est enraciné dans notre biologie. Ça explique plus notre biologie que toutes les découvertes de biologie. C'est le secret de notre cellule, de notre vitalité biologique et spirituelle dans le corps. Ça, c'est le grand secret. Eh bien, la lumière disparut soudain. Alors, sans que le roi de gloire ne quitte cette demeure, cette histoire, le cristal se couvrit d'obscurité. Il devint noir comme du charbon, comme si on avait mis du goudron partout, noir comme du charbon, et répandit une insupportable odeur. Et aussitôt les bêtes venimeuses qui se trouvaient au dehors de l'enceinte reçurent la liberté de pénétrer à l'intérieur même du château. Ça, là, c'est un rendez-vous. Ça, innocent. C'est notre origine, c'est ça. Innocent. Mais c'est pas pour ça que. Alors, tout le problème de l'oraison, ça va être de permettre à Jésus de prendre, de nous faire pénétrer dans la première demeure, puis la deuxième demeure, la troisième demeure, pour le rejoindre au centre, et d'être à nouveau entièrement repris dans l'union de faire glorieuse avec sa présence glorieuse et trinitaire, au fond de nous, où il ne nous a jamais quittés. La sainteté demeure, parce que la sainteté n'est pas de nous. Et on rejoint simplement, et on permet à Jésus d'enlever, de ne plus être lié aux serpents venimeux, de ne plus être lié à la sécurité, de ne plus être lié au goudron. Et faire au fond que ce soit la gloire ressuscitée de Jésus, qui lui-même a pris le goudron pour faire brûler dans la lumière de la résurrection. Et avec Jésus sauveur, Jésus ressuscité, Jésus goudron glorieux, hein, goudron de gloire, eh bien, reprendre justement toutes nos crucifixions, toutes nos plaies, toutes nos amertumes, toutes nos racines amères, les faire brûler dans le feu de la résurrection, à ce moment-là, forcément, je peux rentrer dans la première demeure, puis la deuxième, troisième, bien sûr, là, je réatteins mon origine. Mais en même temps, j'aurais atteint mon origine avec la gloire de Jésus ressuscité, qui est évidemment beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus grande, beaucoup plus divine, beaucoup plus lumière que cette gloire initiale qui est en fait une lumière de transfiguration, vous l'avez dit, assez semblable à celle d'abord. Hein? Et faire conjoindre la gloire de la résurrection à la gloire d'abord, c'est ça l'oraison. Finalement, entre les deux, il y a nos péchés, il y a nos souffrances, il y a nos limites. Bon, c'est pour donner toujours la perspective dans laquelle on se situe. Et nous allons reprendre. Mon Dieu, mais c'est déjà 11h et maintenant. Je sens que c'est pas possible. Hein. C'est à chaque fois des introductions trop longues, hein, c'est ça? Nous en étions arrivés aux conséquences psychologiques de la conscience de culpabilité. Les conséquences psychologiques de la fausse culpabilité. Vous vous rappelez que comme on a ce sentiment de culpabilité, on sait qu'on a fait des choix de mort profondément, qu'on est finalement très loin. Notre liberté est très loin d'être esclave de la gloire de Dieu. Et donc, on a un sentiment de culpabilité. Cet sentiment de culpabilité nous donne l'impression que finalement, on est des êtres détestables. On n'est pas aimable. On a ce sentiment de ne pas être aimable. On a cette angoisse.
Ça, c'est la fausse culpabilité. Pas accepter ça. Il vaut mieux accepter la conscience de culpabilité. La conscience de culpabilité, elle ouvre sur la vérité, sur la réalité. À travers l'angoisse que j'ai, qui est au fond de moi, je n'en déduis pas que je suis un être lamentable, repoussant. Non. Le fond de mon âme, ma vie, mon être, sont une splendeur. Et c'est Christ qui rayonne. Je suis le trésor de vie, le trésor métaphysique du Seigneur. Je suis la pupille de son œil. Mais cette angoisse doit me faire pénétrer précisément dans la réalité. Et cette réalité, c'est qu'effectivement, ce trésor est caché par cette obscurité qui est venue et qui fait que je suis porteur, que c'est personnel, communionnel. Et donc, il faut revenir, grâce à la conscience de culpabilité, à cette réalité. C'est ça, la conscience de culpabilité. C'est prendre l'angoisse pour voir le péché tel qu'il est. Comme une voie d'accès à la glorification du Christ créateur et illuminateur de tout homme venant dans ce monde. Au fond, l'angoisse, si on le vit à travers la conscience de culpabilité, est une grâce, une porte ouverte à la vie spirituelle. C'est la seule porte, peut-être, qui nous ouvre sur la vie spirituelle. Mais en même temps, elle ouvre sur une, elle nous oblige à descendre dans cette angoisse, qui en réalité n'est pas une angoisse parce qu'on ne veut pas voir qu'on est l'enfer lui-même, si vous voulez, ou dégoûtant, mais c'est parce qu'on a quand même cette angoisse de venir à la lumière. Donc elle s'ouvre sur une angoisse de venir à la lumière. Il faut accepter la lumière, c'est un petit peu désagréable, parce que d'un seul coup vous allez voir que non, mais non, c'est pas du tout Michel qui est un. C'est un nom. Quelque part, c'est moi qui ai toujours refusé mon Père, qui refusait Dieu, de mon Père en Dieu. Et ça, de voir que j'ai participé activement par des choix viscérales, même quand j'étais toute petite. C'est non, c'est pas Bruno, c'est moi. Mon frère, lui, moi, il s'appelle Bruno, c'est pas Bruno, c'est moi. Ah, il y a cette angoisse, vous comprenez ? De venir à la lumière. Mais cette angoisse que j'accepte, dans laquelle j'accepte de rentrer, parce que venir à la lumière, c'est toujours voir mon péché dévoilé, cette angoisse ne demeure pas. Parce qu'elle va céder au moment de l'aveu. Donc effectivement, le sentiment de culpabilité vous pouvez vous faire entrer dans le point de vue spirituel de la conscience de culpabilité et laquelle angoisse va vous mettre dans des automatismes qui sont des systèmes de défense. Ces systèmes de défense vont notamment vous mettre dans une « je ne sais pas moi, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas grave, etc. » dans des agressivités, dans des colères. Toutes les colères viennent là. Cette agressivité, parce que j'accepte de descendre dans l'angoisse, ouvre sur l'exercice de la conscience de culpabilité, j'accepte dans la conscience de culpabilité d'assumer, de redescendre dans cette angoisse. Alors si j'accepte de redescendre dans cette angoisse, l'angoisse va céder dans l'aveu. Je donne une certaine... Et l'aveu, vous comprenez, grâce à l'aveu, je vais faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Donc, d'une certaine manière, l'angoisse, c'est quand même quelque chose de très précieux. Alors, est-ce que je vais accepter de voir mon péché ou est-ce que je vais refuser de voir ma responsabilité. Si je vais refuser de voir ma responsabilité, alors à ce moment-là, je vais rentrer dans les aspects négatifs de la conscience de culpabilité, qui sont beaucoup plus graves au point de vue destructeur, beaucoup plus destructeurs que les aspects négatifs du sentiment de culpabilité que nous avons déjà eu. Et là, c'est pas drôle, les aspects négatifs du sentiment de culpabilité. Mais les aspects négatifs de la conscience de culpabilité, il faut accepter d'être raisonnable tout de même. Oui, pour sortir un petit peu de l'irresponsabilité, il faut être responsable de ses actes, de ses gestes, de ses paroles. Enfin. Non. Mais refuser d'être responsable dans ses actes, ses paroles, ses gestes, raisonnable, spirituel, respectueux, quoi. Pourquoi faire croire qu'on est dingue, hein, qu'on est... C'est pas vrai. Si je refuse, dans ma conscience de culpabilité, d'assumer cette responsabilité, à ce moment-là, il va y avoir un aspect négatif. La folie, la psychose, des mécanismes de relations fusionnelles et toute une confusion intérieure. C'est ce qu'on va regarder. Il y a tout à fait un aspect positif. Oh, c'est ça, c'est très parlant pour nous. On est tous là-dedans, hein. Yes. Mais le but pour nous, c'est de découvrir l'aspect positif du sentiment de culpabilité, la conscience de culpabilité, pour en finir avec cette erreur grossière. Et l'aspect positif, c'est que j'accepte de voir mon péché de l'intérieur, en face. Alors à ce moment-là, il est évident que si je refuse de voir mon péché, ma conscience de culpabilité va être enfouie. C'est pour ça qu'on l'a entourée d'une espèce de cadre noir. Elle va être enfouie. Elle va mener sur une accélération, une intensification et un débordement de l'angoisse. Ce débordement de l'angoisse va augmenter, bien entendu, la tendance à l'agressivité. La tendance à l'agressivité, comme vous le voyez sur le tableau, vous le suivez sur le tableau? La tendance à l'agressivité va induire une relation de dépendance avec celui que j'ai agressé. Vous voyez, dans un couple, hein? Ça c'est parlant, hein, dans un couple, hein? Ménage. Je ne vise personne. Moi, je ne suis pas couple, alors. Oui, parce que j'ai eu cette relation pulsionnelle à cause de l'angoisse, l'agressivité, c'est donc celui qui prend tout dans les dents. Alors, il a tout pris, vous voyez. Alors, vous dites, mais alors je suis non aimable, enfin, je suis non aimable, quoi. Vous comprenez? Alors, du coup, pour réparer, je vais avoir avec lui une relation fausse. Je vais essayer de réparer en essayant de lui plaire. C'est ça la relation fusionnelle. Je vais essayer de lui plaire. Je vais essayer de par un point de vue de relation enveloppante. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y aurait plein d'exemples, bien sûr, à dire. Je vais rentrer dans le désir de lui plaire, la séduction. Et du coup, je vais dépendre de lui. Quelque part, sous un certain rapport, et c'est ce qu'on appelle la relation fusionnelle. La relation fusionnelle, c'est une relation semblable à celle de l'enfant qui essaye de ne pas être lui-même, parce que j'ai trop honte d'être moi-même, et du coup, allez hop, c'est ma femme qui doit porter la culotte, et puis c'est tout. Fusionnelle. Allez, je me mets au niveau du sous-ouvrier agricole de la maison. Très bien. C'est un phénomène de relation fusionnelle. Parce que trop honte de moi. Hein? C'est curieux ça. Et
cette relation fusionnelle, c'est évident qu'elle induit sur une habitude, à force, de perte d'identité. C'est plus moi le maître de la maison, c'est plus moi le maître de moi-même, c'est plus moi l'époux de ma femme, ce n'est plus moi. Je ne suis plus le fils de Dieu, je ne suis plus, etc. Une perte d'identité, une immaturité, une irresponsabilité. Donc voyez bien que ça, c'est le processus normal. Si la conscience de culpabilité se refuse par ailleurs à avouer, à s'avouer, à se confesser, alors à ce moment-là, il va y avoir un deuxième problème, c'est que ça va engendrer la folie et les psychoses. Il n'y a pas de psychose sans refoulement et enfermement de la conscience de culpabilité. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et je crois que les médecins qui s'occupent des de ceux qui ont des folies psychotiques, se rendent compte, ils le disent, qu'il y a vraiment un problème spirituel. C'est pas seulement psychologique. C'est un problème d'inhumanité, volontaire. C'est un problème spirituel. Attention, il y a la psychose, pas toutes les psychoses, parce qu'il y a des psychoses qui sont induites par des lésions organiques. Hein.
Les personnes âgées, c'est
non, les personnes âgées.
Il y a les deux, hein.
Mais vous avez souvent des psychoses chez les personnes âgées?
Oui, il y en a beaucoup.
Ouais, parce que la moitié, parce que la moitié des cerveaux qui ne fonctionnent plus, c'est tout.
Non, il n'y a pas que ça. Il y a toute une vie qui y a même. Et puis, après, il y a des organiques qui
s'intéressent. C'est vrai qu'à la fin d'une vie, il commence sans seul, abandonné, etc. Il peut y avoir un déclenchement de ce processus où on rentre dans une relation fusionnelle, on tombe en enfance, on refuse la vie, on perd son identité, et comme on ne veut pas avouer que sa vie a été nulle, on rentre dans la psychose. C'est sûr, c'est le processus habituel, mais ce n'est pas automatique. Il y a aussi des déficiences organiques, à cause de la vieillesse qui vient, dans les mécanismes cérébraux, et qui peuvent provoquer des choses qui ressemblent à une folie névrose, à une folie. Mais c'est à ce moment-là, c'est pas psychotique à proprement parler. Mais les médecins n'ont aucun discernement sur la différence entre le point de vue psychique de l'âme et pneumatique de l'âme, et donc ils sont incapables. C'est pour ça que c'est le même mot. Psychose, alors que ça n'a rien à voir comme phénomène dans son origine et dans son... N'est-ce pas ? Et c'est vrai qu'on dit psychose. Donc il faut distinguer les psychoses qui sont issues de lésions organiques. Il y a également des psychoses qui sont issues de l'information génétique d'origine. Dans le génome originel est inscrit la psychose que le mec qui va se déclencher à 50 ans. Ça, c'est indéniable. Ça existe.
Oui.
C'est rare, ça existe. Donc, il est évident que ça va entraîner aussi, bien sûr, cette confusion intérieure. Parce que pour éviter de vivre au niveau, puisque je refuse d'accepter cette angoisse et de voir ce qu'elle me dit de moi-même, eh bien, pour refuser la conscience de culpabilité, je vais mettre en avant mon sentiment de culpabilité. Les sentiments de culpabilité, vous vous en rappelez, c'était... Alors qu'est-ce qui t'arrive ? Ah ben je sais pas. Je bouffe des croissants, du fromage, du chocolat. Boulimie. Je mets en avant mon sentiment de culpabilité. Ça, c'était, vous savez, vous rappelez, boulimie, tout ça, habitudinaire, onanisme, tout ça. Je mets ça en avant. C'est terrible. Dans la confession, je mets en avant... masturbation, tentation, boulimie, etc. Souvent, les confessions, quand on n'est pas habitué, qu'on ne met pas la conscience de culpabilité, on va mettre on va placer tout sous le dos de quelque chose qui en fait est au niveau du sentiment de culpabilité.
ça veut pas dire qu'il faut pas avouer ses actes. Je dis, c'est pas ce qui m'arrive, je maîtrise pas, c'est comme ça, je me sens absolument pas coupable, je sais pas, automatiquement je boulimique. Et je me sens absolument pas coupable. Je sais pas, c'est sentiment de culpabilité. Je mets en avant le sentiment de culpabilité dans une de ces dérives, vous voyez. Curieux ça. Tandis que si je confesse l'acte c'est quand même indigne en face du temps de Dieu. Je dis, ça c'est vrai Seigneur, je suis désolé, je demande pardon. C'est pas pareil. Ah bah quoi, c'est facile, écoutez, c'est quand vous voterez dans la boue, si vous faites votre affaire, hein? Quoi, un acte, c'est tout proche, un acte, hein? Votre mari vous énerve, et dans votre tête, vas-y, espèce de cochon, je te crache dessus. Quand tu n'en as pas, je dis, ah merde, oui, pardon, Seigneur, c'était peut-être pas très véritable d'avoir pensé ça. C'est un acte. Il faut confesser évidemment les pensées. C'est les pensées qui sont les actes premiers de l'homme. Si en plus vous rentrez dedans et que vous lui dites, parce que du coup il continue à m'exaspérer, à ce moment-là, ça sort par la bouche. Un acte. Alors, je ne le fais pas par prudence, pas parce que je refuse le péché, par prudence, à cause des conséquences éventuelles. Oui, mais c'est la vie, ça, hein? C'est vrai. Donc, il va y avoir donc une confusion. Quand on dit confusion intérieure, c'est ça, c'est je refuse de voir ce que je suis, une merveille de Dieu extraordinaire, qui n'est absolument pas conforme dans ses actes à ce qu'il est. Je refuse de voir ça. C'est moi le responsable. À ce moment-là, il va y avoir une confusion entre le sentiment de culpabilité et la conscience de culpabilité. C'est ça, quand on se trouve dans une confusion intérieure, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on fait des bêtises, on est indélicat, on est irrespectueux, on fait des trucs qui sont dingues quelque part, c'est aberrant, il ne faut pas tomber dans l'aberration, on fait des choses qui ne sont pas correctes. Bon. Donc le tout se réalise comme ça à cause d'un système de défense où on refuse d'accepter l'angoisse liée à cette conscience de culpabilité non avouée. Vous comprenez? Et ces défenses, au fond, à bien regarder, eh ben, elles sont liées à ce refus, cette peur, plus exactement, cette peur d'être responsable, d'être raisonnable, d'être spirituel, d'être bien. J'ai peur d'être bien. Parce que, vous comprenez, par exemple, l'adolescence. Alors, la chanteuse, le rap, etc. La truc, la magicie. Le fardé entièrement coloré comme un guignol, etc. La peur d'être bien. La peur d'être bien, elle croit que celle qu'elle est, elle est non aimable. Donc, elle se farde. Curieux, cette confusion intérieure. Cette confusion. Elle s'étonne après de faire qu'elle fait peur. Mais c'est elle qui a peur d'elle-même. Pas pareil. Alors on a peur que cette peur qu'elle a d'elle-même demeure. Ah oui, mais on n'a pas peur d'elle. C'est la peur d'être responsable, d'être bien, d'être raisonnable, d'être un saint. Ça peut aller jusqu'à cette peur d'être un saint aussi. Donc ce système de défense va provoquer donc plusieurs types de comportements que je vais vous citer, comme ça vous allez reconnaître, parce que vous pouvez dire oh, moi je suis absolument pas concerné par ça, hein. Ah, moi je vais dépasser ça. Non, ça, heureusement, moi j'avoue mon repentir, je vis de la miséricorde de Dieu. Vraiment, je me sens si faire, hein, et puis je suis responsable, hein, j'ai envie vraiment d'ouvrir une crêperie, etc., pour les pauvres. Je sens que vraiment là, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, et après tout, il faut, enfin, je continue ma vie spirituelle dans la dignité. Et il faut. Hein, donc j'offre toute ma vie pour ça. Et donc voilà, j'en suis là, moi, et non, ça, système de confusion, je me sens ça va. Voilà, du coup, comment on va repérer cette confusion? C'est tromper d'abord l'agressivité. Est-ce que vous avez des moments, des sentiments d'agressivité en vous? Et cette agressivité, si elle vous fait trop peur, elle va être même elle-même être refoulée. Et vous pouvez refouler votre agressivité par des comportements de justification, d'accusation, de condamnation. On dit, mais il m'énerve, mais il est fou. Justification, c'est pas moi. Accusation, condamnation. Vous comprenez pourquoi Jésus dit « Ne jugez pas, faites miséricorde. Faites-vous miséricorde à vous-même et du coup, vous ne jugerez pas. » Se justifier, c'est refuser la miséricorde. Et du coup, je juge, je condamne l'autre. Autre comportement, c'est ce qu'on appelle la scotomisation. Scotomisation. Ah. Donc, premièrement, l'agressivité. La scotomisation. Alors, je vais tout vous mettre, n'est-ce pas? La cristallisation. Le déplacement, le rêve, mais je vais expliciter, vous inquiétez pas. Le plus important, le plus facile à repérer, le déni, la résignation et la fameuse sublimation. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Très bien. Alors, donc l'agressivité, c'est justification, du coup, accusation, condamnation. C'est le refus de la miséricorde pour soi-même et du coup, il y a ce phénomène d'agressivité. L'oubli, la scotomisation, c'est un espèce d'oubli. La scotomisation, vous savez ce que c'est que la scotomisation? Qu'est-ce qui peut m'expliquer? C'est vous couper. Hein? Vous oubliez que vous avez mis un voile sur votre responsabilité. Vous oubliez que c'est ça que vous avez fait. Vous voulez l'oublier, vous l'avez oublié. Scotomisation. Elle consiste à oublier complètement certains événements. Mais c'est complètement oublié. Je m'en rappelais absolument pas. Puis un soir, je me suis réveillé, j'ai pris un couteau, je suis rentré dans la chambre pour transpercer le ventre de ma belle-mère. Je m'en souviens plus. C'est seulement 15 ans après, je m'en souviens. Pendant, j'ai complètement oublié cet événement. Finalement, je n'ai pas fait une extrémiste, je suis vite allé au chiottes pour vomir, je me suis rendormi. Mais je me souviens absolument pas. Je ne me rappelle pas du tout. J'ai complètement oublié cet événement. C'est scotomisation. Ça arrive hein, qu'on oublie complètement. Je vais vous expliquer. Ça, je vous ai mis la liste, je vous explique maintenant. J'en suis à la scotomisation. Il y a certains événements, de dates que je fais, c'est complètement oublié. Il y a certaines femmes, je vous assure, qui ont complètement oublié qu'elles ont avorté. Hein. Elles ont oublié. Elles ne se rappellent pas du tout. C'est d'ailleurs une confession, quelquefois, je sens, une fois ça m'est arrivé, ça, je sens ça. Je dis, oula, vous avez eu des avortements. Et la femme a dit, non, mon père, vraiment, jamais eu d'avortement. Il y en avait eu deux. Elle avait oublié. C'était pas un mensonge, elle avait oublié la scotomisation. Curieux ça. Et quand quelqu'un a divorcé, toutes les fautes sont sur le mari, et vous avez oublié toutes les saloperies que vous lui avez faites. Tout! Vous n'êtes pas responsable. Le refus d'être responsable, c'est incroyable. Et la scotomisation, c'est impressionnant. Hein. Cette espèce de mécanisme extraordinaire de défense lié à l'angoisse et à la perte d'identité. Donc, ça, c'est par rapport aux actes. Ça, c'est par rapport à soi-même et par rapport à autrui. Maintenant, il va y avoir tout un problème psychologique, l'intelligence, la volonté, la mémoire, ontologique. Ah. Alors, tous les mécanismes d'ordre psychologique, la cristallisation, le déplacement, et puis le rêve, l'illusion, la fuite, le délire. Le cauchemar. Le problème psychologique, c'est que, par exemple, la cristallisation, c'est quand je vais mettre la responsabilité, ben, au fond, c'est pas de ma faute, sur un événement. Tout simplement parce que je voulais être esthéticienne, tu vois, quand j'avais 13-14 ans, je voulais me diriger vers une école d'esthéticienne, et mon père a refusé. C'est terrible. Alors, je mets ça, cristallisation, je cristallise sur un événement. Voilà, c'est, oui, mais c'est parce que quand j'étais petit, je suis tombé dans le chaudron de potions magiques, c'est à cause de ça. Et quand j'avais 4 ans, mon oncle m'a précipité dans les orties. En disant, t'es le fils de ta mère, il croyait que je ne comprenais pas parce que j'avais un langage de tout petit. Et ta mère me fait chier, et puisque tu es le fils de ta mère, je te mets dans les orties. Et depuis, à cause de ça, c'est à cause de ça. Je cristallise tout sur un événement, vous voyez. Ça, ça m'est arrivé, moi, ça. Mais j'avoue que je n'ai jamais cristallisé là-dessus, parce que je ne m'en rappelle pas. C'est plutôt scotomisation, je ne m'en rappelle pas de ça. J'en étais victime, hein. Et en tout cas, lui, mon oncle, il ne se rappelle pas de l'avoir fait. Bien fait pour lui. Bon, c'est la faute. Voilà. Vous voyez, et ça, c'est évidemment ici, hein, la cristallisation. Vous dites, mais c'est pas possible, t'as vu comment il m'a parlé aujourd'hui, ce mec, hein. Vous cristallisez sur ce qu'il vient de vous dire. Il a dit ça très gentiment. Vous cristallisez. T'as vu comment tu me jettes, etc. Mais pas du tout, c'est pas ça que je voulais dire du tout. Si. C'est-à-dire, vous cristallisez là-dessus, ça, sur cet événement, alors que c'est cet événement-là qui en est l'analogué. Ça. Vous cristallisez sur un événement. Alors, vous rentrez par exemple, vous fiancez, vous fréquentez, vous fiancez, vous vous mariez. Depuis que je suis marié, c'est comme ça. Depuis que je suis marié, ça va plus. Et donc, vous cristallisez sur le mariage. C'est pas le mariage qui est fautif. C'est vous. Il y a certaines personnes... Non. Ou c'est autre chose. c'est autre chose. C'est peut-être le mariage de vos parents, qui était très très mal vécu quand vous aviez 6 mois. Hein? C'est possible. Mais en tout cas, vous cristallisez sur un autre événement que l'événement responsable, que l'événement coupable. C'est la faute de la communauté. Ça, dans les communautés, Ouais, non. Moi, je vivais la prière, j'étais très très uni avec Dieu, avec Marie, etc. Et depuis que je suis dans ce groupe, ça ne va plus. C'est pas de la faute du groupe. Je cristallise, vous voyez, c'est pas de la faute de la communauté. Dans cette communauté, on ne me reconnaît pas. Terrible. Donc c'est la faute de la communauté. Mais c'est toi qui ne te reconnais pas, imbécile. On dit que la communauté te reconnaisse. Donc je cristallise, je mets sur la communauté, je mets sur un événement, je cristallise sur un événement, sur un accident. Bon, le déplacement, on l'a déjà dit, le déplacement, c'est un autre, c'est là aussi, vous voyez, le déplacement, c'est que bon, j'ai en ce moment des problèmes avec mon chef de service. Tout ce qui représente l'autorité, je sais que j'ai des problèmes. Je suis passé dans 12 communautés, je me suis fait vider par, à chaque fois, par le chef de cette communauté. D'où vous le savez que vous avez un problème par rapport à l'autorité, vous le savez, mais vous faites quand même un déplacement. Vous dites, ouais, à chaque fois, j'ai un problème avec l'autorité, je le sais. J'ai un problème avec l'autorité, l'autorité plus exactement a un problème avec moi. Ça, je le sais, ça. Mais j'ai déplacé sur l'autorité un problème que j'ai avec mon père. Un problème que j'ai avec mon père. C'est un déplacement, ça. Et si c'est avec ma mère, le déplacement se fait avec la société. Je refuse la société. Je refuse ça. Moi, je vote pas. La connerie, tout ça. Service civique, tout ça. Et puis, non, moi, je suis tout seul. Je vis Dieu comme ça. C'est à la communauté, non. La communauté, non. Fonder une famille, vivre en famille, pourquoi hein? Hein? Pour se faire tromper par son mari, pour avoir des gosses qui après se pompent de la défonce, de la drogue, se fassent violer par les serfs. Non, pas de famille. Déplacement, scotomisation, et puis cristallisation en même temps, les trois, vous voyez là. Mais en fait, c'est parce que j'ai un problème avec ma mère. La communauté, la société, la famille, c'est substitut de la mère, vous savez. De refuser de vivre en famille. J'ai un problème avec ma mère. Et en réalité, j'ai un problème avec la providence de Dieu. C'est pas un problème avec mon père, j'ai un problème avec ce fait que j'étais si bien dans cette innocence du Verbe de Dieu, illuminant tout ce que j'étais, et me donnant cette espérance, amour, et en même temps, cet héritage du péché qui est venu. Et ça s'en est voulu à mon père. J'en ai voulu à ma mère, c'est-à-dire cette providence. Il m'a quand même porté pour continuer à vivre et à lutter avec lui, avec sa grâce. Ça, c'est un déplacement. Je refuse l'Église. Les gens qui refusent l'Église, c'est la société, c'est là, c'est le côté maternel qui est vu. Là. Bon, la belle-mère, l'épouse. L'épouse, mais c'est pas possible. Je sais que j'ai un problème avec la femme, avec mon épouse, avec ma belle-mère, avec la communauté, avec l'Église. Mais en réalité, c'est ma relation avec la providence de Dieu sous le visage de ma mère que j'ai haï. C'est le déplacement, ça. Le rêve, c'est l'imagination. Voilà pour point de vue psychologique. Point de vue psychologique, cristallisation et déplacement, c'est facile. Bon, point de vue de l'imagination. L'imagination va jouer avec le rêve, ça c'est facile, le délire, l'illusion, la fuite. Eh ouais, moi si j'ai pas une heure, pas d'horizon, mais je peux dégager un bon coup de suite, pas de, un bon stylum, il faut ça de temps en temps, ça, pour décompresser. Voilà, ça c'est l'imagination. Mais il peut y avoir. Ou l'adolescent, vous voyez bien que l'adolescent, qu'est-ce que tu fais ici sur ton siège à 3 heures? Ah ben, je sais pas, je pense que qu'il m'aime.
Qui?
Ben, je sais pas.
Un bel au bois dormant, ça. Bon, la volonté. L'intelligence
va réagir par le déni. Le déni, c'est très extraordinaire. Alors là, vous pouvez aider autrui en lui mettant en face son déni. Parce que là, c'est là que ça devient intéressant, parce que faut pas trop relever ça chez les gens. Ça sert à rien, c'est psychologique. Ça n'aidera pas la prise de conscience spirituelle. Si vous voulez aider les gens, c'est là. Alors, le plus pour lui faire voir, c'est l'intelligence, la lumière. Alors là, c'est le déni. Moi? Un problème avec mon père? Pas du tout. J'adore mon père, moi. Il est vachement bien, ce mec. Je l'admire, moi. Enfin, j'ai un problème avec l'autorité, ça oui. Mais mon père, Moi, un problème avec mon père? Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai aucun problème, moi, avec mon père. Hein. Aucun. Dis-toi, en ce moment-là, t'as pas l'air d'aller. Moi, je vais très bien. Je vais très bien. Hein, c'est curieux, ça. C'est pas vrai, c'est très. C'est marrant, ça, le déni. Ah, c'est pas du tout pareil que quand vous voulez pas livrer un secret, la personne est indiscrète, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est vraiment vous qui êtes convaincu que ça n'est pas de problème. Pas concerné. Non. Ah, vraiment, on est dans un monde athée. Hein. D'ailleurs, non, moi je suis pas athée. Moi je crois, je suis croyant. Je crois qu'il y a quelqu'un. Moi je suis vraiment un vrai croyant, mon père. Un vrai. Moi, j'ai aucun problème du côté de la foi. Je crois bien qu'il y a quelque chose qui existe. Hein. Aucun problème. C'est le déni, vous voyez, ça c'est extraordinaire le déni, vous le repérez tout le temps le déni, c'est facile à repérer sur autrui, et heureusement, parce que grâce à ça, vous dites, dis donc, tu vois, le déni. Ah ça, j'aurais des histoires étonnantes à raconter, il y en a tous des histoires de famille, hein, n'est-ce pas? Quand mon père commençait à faire monter l'agressivité, qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait envie de foutre un coup de pied aux fesses, comme on n'avait pas de chien à la maison, le chien ne pouvait pas. C'est pas le chien qui prenait un coup de pied aux fesses à la place, hein, comme tel de Turc, alors il fallait qu'il. C'est mon frère qui prenait tout. Alors ma soeur Maureen sentait une cogitative extraordinaire, ma soeur.
La grande mystique de la résignation, c'est la mystique du karma. Hein. L'hindouisme, c'est vraiment la religion de la résignation. Ce qui montre bien que l'hindouisme, dans toute cette métaphysique du karma, du samsara, etc., hein, cette résignation, etc., c'est une mystique quand même qui refuse la spiritualisation de la conscience intime de l'homme par rapport à sa faute. Et d'ailleurs, en plus, je mets ça sur une faute qui est dans une vie antérieure. Donc, je dégage du sentiment de culpabilité et je recouvre la conscience de culpabilité dans la résignation. Et ça, je crois que c'est l'hindouisme. C'est le grand truc de l'hindouisme. Mais ce n'est pas vrai. Ça, moi, je n'hésite pas à le dire. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que tous les hindous comme ça, parce qu'il y a des hindous qui passent par là, atteignent le samadhi sans racine, touchent par la mémoire ontologique cette innocence, Et une fois qu'ils ont atteint cette innocence dont nous avons parlé samedi, en l'exprimant descriptivement, au lieu d'y rester dans cette espèce de coma continuel, n'est-ce pas, reviennent à la vie et essayent d'aimer leur prochain et d'utiliser de la miséricorde. D'ailleurs, la plupart des Yonukta font comme ça. Ils font comme ça, au moins la moitié font comme ça. Ils reviennent vers l'amour de Dieu, du prochain, et finalement ils reviennent, à partir de la mémoire ontologique, dans une vie d'amour et une vie de contemplation. C'est peut-être ça, la beauté de l'hindouisme. C'est que je passe peut-être, mais vous savez, vous vous rappelez ce que disait le Swami, c'était pas Maharshi, c'était, il y en avait quand même un par siècle hein, qui arrivait. Je crois que c'est pas vrai. Moi, je ne crois pas que ce soit vraiment partiel. Je pense que ceux qui ont atteint ici, au moins, ne serait-ce qu'à titre de flash, pendant quelques instants, ce toucher de l'innocence absolue qui est en nous, en pleine certitude, physiquement, en rentrant justement dans les circuits d'un mode de vie qui est hors du spatio-temporel, dans la lumière, bon, coincé, bien sûr, dans l'innocence, on revient, je veux dire, dans la vie. Sans que il y en a des, à mon avis, il y en a des centaines de milliers qui ont fait cette expérience. Vous voyez, on en fait de plus en plus d'ailleurs. Les NDE, c'est ça, je crois. Mais il faut revenir à partir de là dans la vie et puis comprendre qu'il faut un rédempteur, qu'il faut être miséricordieux, qu'il faut aimer, et qu'il faut contempler Dieu dans son prochain. Donc voyez bien ce que c'est que la résignation. La sublimation, c'est également un problème d'identité personnelle. Par exemple, la sublimation, je pense que vous savez ce que c'est. C'est un oubli de sa vocation. Alors par exemple, j'ai peur du mariage, j'ai peur de ma mère, donc j'ai peur du mariage. J'ai peur de mon père, donc j'ai peur d'assumer l'autorité, ma responsabilité. J'ai refusé au fond quelque part. Bon, donc du coup, j'ai peur du mariage, j'ai peur de la famille, tout ça. Oh bah, je vais rentrer au monastère, puis c'est tout. Enfin, j'ai comme faire bonne sœur, puis voilà. Résignation, vous voyez. Résignation, donc allez, il ne me reste plus qu'à rentrer chez les bonnes sœurs. C'est pour ça que il ne me reste plus qu'à rentrer chez le Père Emmanuel. Plus rien à faire, quoi. J'ai essayé 12 communautés. Il ne me reste plus qu'à rentrer dans une cabane. Alors je me fais ermite. C'est la sublimation. Du coup, je me fais moine. Voilà. C'est curieux ça, la sublimation. Alors j'idéalise du coup un type de vie pour échapper à ma vocation. C'est un phénomène d'idéalisation à partir d'un refus de ma vocation qui est dans ma mémoire ontologique. La sublimation. Alors je peux très bien, évidemment, et justement le père maître des novices, il est là pour ça. Il est là pour discerner si la personne qui est là, elle se présente à la vie monastique, parce qu'elle idéalise la vie monastique comme un refuge, j'allais dire par peur du parent du même sexe que lui. Parce que comme il a peur du parent du même sexe que lui, eh bien, il n'a plus, il y a un gros problème avec son identité personnelle. Quand on a eu longtemps peur du parent du même sexe que vous, vous perdez complètement, vous n'avez pas pu vous situer par rapport à lui dans votre identité personnelle. Alors il s'agit de voir à ce moment-là, si ça vient de là, c'est facile à voir. Si c'est votre vocation ou si c'est une sublimation. Voilà. Donc, rappelons-nous, donc le schéma, ici nous aurons vu donc aujourd'hui la négativité de la réaction par rapport à l'angoisse dans la conscience de culpabilité. C'est donc la relation fusionnelle, on régresse en fusionnant avec un type de comportement qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de notre rôle, qui n'est pas celui de notre fonction, qui n'est pas celui de notre identité personnelle. La folie, les psychoses, je rentre dans l'irréel jusqu'à la folie et jusqu'à la psychose, ou alors je rentre dans la confusion intérieure qui est une indifférenciation du sentiment de culpabilité, de la conscience de culpabilité, et qui se repère en nous si elle existe, par tous ces genres et ces types de comportements. Repérez surtout le déni, en disant, et à chaque fois que vous réagissez, en disant, enfin, vraiment tu m'as fait mal, hein, tu m'en veux en ce moment.
Moi ? Pas du tout.
Hein, quand vous répondez comme ça, attention, dites-vous bien, moi pas du tout. Quand vous faites chapitre à la famille, en fait, un chapitre, hein, et quelqu'un vous fait un reproche en disant, tu vois, là franchement il y a quelque chose qui ne va pas, il y a ça, et il me semble que ça va. Pas du tout. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Le déni. Il faut faire attention à cette histoire de déni. Et même, vous pouvez aider votre ami, votre conjoint, en disant, tu vois, tu es dans le déni, il y a un truc que tu ne veux pas voir. C'est lui qui ne le voit pas. Hein? Tu es de mauvaise humeur? Moi, pas du tout. Voilà. Donc, ça sera positif, le conscience de culpabilité, si j'accepte de remonter en face à la réalité de ma responsabilité, vous comprenez? Et si j'accepte de venir à la lumière, à ce moment-là, j'accepte de venir à la lumière, de descendre dans l'acte qui exprime ma responsabilité et de l'avouer. Mais il a cru, en toute loyauté, sans détour. Oui.
Je ne comprends pas le lien entre l'angoisse et la conscience de culpabilité.
Oui. Et le sentiment de culpabilité, qui est un sentiment psychologique, on se sent vraiment honteux. On sent vraiment, on est lamentable. Ça, c'est le sentiment de culpabilité, d'accord ? Si tu regardes, tu dis, tiens, je me sens lamentable. Je rentre au fond et je m'aperçois que c'est plutôt un sentiment d'angoisse plutôt qu'un sentiment de honte qui est en dessous. D'accord ? Et cette angoisse m'ouvre sur la réalité, c'est que finalement, je ne suis pas du tout honteux. Je suis une merveille de Dieu, je suis un fils de Dieu, je suis une créature divine. Je suis appelé à la sainteté, mais j'ai posé un acte. L'angoisse, c'est ce qui ouvre sur la conscience de culpabilité.